Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La vie de l'Église est ainsi d'une extraordinaire richesse. Alors que vous pensez avoir globalement fait le tour des communautés religieuses se trouvant à Toulouse, surgit un nouveau nom, les Claretins, autrement appelés les Fils du Cœur Immaculé de Marie à Toulouse. Ils sont quoi? Quelques-uns, une demi-douzaine, venus d'un peu partout dans le monde, missionnaires dans cette belle ville rose à la tête d'une paroisse en milieu dit populaire. Les fils spirituels d'un saint comme il se doit, Saint Antoine Marie Claret, saint espagnol du 19e siècle, proclamé saint en 1950 par le pape Pie XII, et dont la vie ressemble à une épopée, de quoi voyager à peu de près, à peu de frais. Voilà, tout le monde est enrhumé, en tout cas je suis enrhumé, je prie d'excuser les auditeurs de cette voix un peu enrouée. Ce matin, donc, une émission Vivante Église à la découverte des Claretins. Alors autour du plateau, ils sont quelques-uns, prêtres ou laïcs, ils sont de la famille claretaine, on dit comme ça. Le père Pierre Zanga, qui est supérieur provincial des missionnaires claretins en France et enseignant en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro. Le père Gustavo Pes, vous êtes curé de la paroisse du Sacré-Cœur et missionnaire claretin. Bonjour.
Bonjour.
Joël Sceaux, vous n'êtes pas prêtre, je ne me suis pas trompé, vous êtes laïque claretaine de cette même paroisse du Sacré-Cœur. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Joachim Grendotti, vicaire de cette même paroisse et missionnaire claretin. Bonjour.
Bonjour.
De quel pays venez-vous, chacun ?
Le père Pierre Zanga, je viens du Cameroun.
Cameroun.
Moi, je viens de République centrafricaine.
Et vous ?
Argentine.
Argentine. Voilà, vous voyez, c'est aux portes de la radio. Et ils viennent du monde entier. Alors, je propose, en deux, trois mots, vous allez nous présenter très brièvement les claretins. Et puis après, on va partir à la découverte de votre saint fondateur. C'est toujours passionnant de découvrir des tranches de vie comme ça, d'histoire sainte, Saint Antoine Marie Claret. Dans la deuxième partie de l'émission, on fera un peu plus connaissance avec les fils du cœur immaculé de Marie que vous êtes. Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils sont dans le monde? Depuis quand êtes-vous en France? Et quelles sont un peu les particularités de ces missionnaires? Et à la fin de cette émission, on demandera à Joël peut-être de nous donner un témoignage et de parler de la place des laïcs et du fameux scapulaire. Pierre Zanga, on va commencer avec vous. Les Claretins, en quelques mots, dites-nous en quelques phrases, les Claretins pour les nuls, si vous deviez les présenter devant une classe d'adolescents, que diriez-vous?
Les missionnaires Claretins, c'est le nom que nous avons par rapport à notre saint fondateur, saint Antoine-Marie Claret, et de Claret nous vient le nom Claretin. Mais le nom que nous avons dans l'Église, le nom fondationnel, c'est les fils missionnaires, fils du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Nous avons donc été fondés par saint Antoine-Marie Claret le 16 juillet 1849 à Vic, en Espagne, non loin de Barcelone. Et notre particularité comme missionnaire, c'est d'être envoyés proclamer la parole de Dieu. Nous sommes serviteurs de la parole, serviteurs de Dieu dans les périphéries, et nous utilisons les moyens les plus importants pour cette mission-là.
Y compris les moyens de communication moderne,
de communication moderne,
puisque j'ai cru comprendre que votre saint, comme saint François de Sales, était très porté sur ce sujet. Alors on va partir à la découverte de saint Antoine Marie Claret. Vous allez nous persuader qu'il faut le connaître et le prier. Il est donc né à Salente, près de Barcelone, c'est ça ?
Salente,
en 1807. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être de la famille dans laquelle il est grandi et de l'enfant qu'il était ?
Le père Claret est le quatrième enfant d'une famille de 11. Ses parents Jean et Joseph Claret et Clara. Il a grandi dans une famille purement chrétienne. Et dans son enfance, ses parents étaient des propriétaires d'une petite usine de textile. C'est dans cette ambiance qu'il a grandi. Et lui-même dit qu'il a reçu de ses parents deux dévotions. La dévotion à la Vierge Marie et la dévotion à l'Eucharistie. De telle sorte que très jeune, il s'était déjà manifesté par cette tendresse-là envers les personnes vulnérables.
C'est-à-dire, ça prenait quelle forme?
Son grand-père, lors de la guerre d'Espagne, qui était très fatigué et qu'il fallait fuir les combats, il était obligé d'attendre son grand-père alors que tout le monde avait fui. Donc il y avait déjà des manifestations très profondes de cet attachement aux vulnérables et à l'accompagnement des personnes dans le besoin.
Donc c'est un enfant qui, semble-t-il, a eu très jeune aussi la vocation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on sait de la manière dont il s'est senti appelé et puis qui avait l'air d'être assez particulier? J'ai lu dans la biographie que vous m'aviez donnée qu'il était certes très aimé de ses camarades, mais surtout ami des livres. Enfin voilà, un garçon assez intellectuel, assez mystique.
Déjà à l'âge de 12 ans, le père Clarette avait manifesté à son père le désir d'être prêtre. Et il a été inscrit aux unités latines à l'époque. Mais à cause de la guerre, il a dû arrêter la formation. La classe de latin avait fermé. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire après? C'était juste se retrouver dans les unes du textil, où il s'était manifesté par un génie extraordinaire et une attention très particulière aux ouvriers.
Donc vous voulez dire que finalement son père l'a fait travailler assez jeune?
Assez jeune.
J'ai lu qu'à 17 ans, il lui avait confié des grandes responsabilités, c'est ça?
Effectivement. Donc à 17 ans, il va l'envoyer à la grande école de textile de Barcelone pour se perfectionner. Et malgré le fait que dans sa jeunesse, il a été très pieux, il s'était mis dans les études de textile. Et la vocation d'être prêtre s'était un peu évanouie. Et progressivement, il a aussi connu à Barcelone, pendant cette époque, des déceptions.
Alors parlons-en justement, parce que quand on lit sa biographie, alors comparaison n'est pas raison, mais on a l'impression, peut-être comme d'autres vies de saints, mais comme saint François d'Assise, que peut-être pas dans les mêmes proportions, mais il s'est un peu laissé prendre, on va dire, par la vie. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qui s'est vécu quand il était à Barcelone?
Effectivement, étant à Barcelone, le père Clarette a connu des grandes déceptions, d'abord de la part d'un ami, un camarade à lui. Ils marchaient ensemble et ils jouaient souvent à la loterie.
À la quoi, là?
À la loterie.
Loterie,
oui. Donc, c'était l'époque où les jeunes faisaient tel jeu. Alors, son ami avait volé tous les tickets de loterie qui leur appartenaient. Il les a placés, il a tout perdu. Il a volé aussi des tickets chez des personnes et son ami s'était retrouvé en prison. Étant en prison, le père Clarette étant son ami, il s'était retrouvé très très vulnérable d'être l'ami d'un tel jeune. C'était qu'il se ressemble un peu. Il a très mal vécu. Une autre expérience, c'est qu'il avait l'habitude d'aller voir l'un de ses proches du village Sayen qui vivait à Barcelone. Et la femme de ce monsieur s'était épris de ce jeune homme. Et le père Clarette a dû fuir en oubliant son chapeau dans la maison. Parce qu'il ne voulait pas de cette histoire, de cette vie. Et aussi, le père Clarette a connu, il a failli se noyer à Barcelone. Et c'est grâce à l'intervention de la Vierge Marie, dit-il, qu'il a été sauvé des eaux. Et à partir de cet instant-là, bon, voilà un peu un moment où, malgré tous ces moments à Barcelone, ce qui lui restait dans la vie spirituelle, c'était la participation à la messe dominicale. Et c'est en participant à une messe dominicale qu'il va écouter la parole « Que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?»
Voilà, dans l'Évangile.
Dans l'Évangile.
Selon saint Matthieu.
Selon saint Matthieu. Et c'est comme ça donc que tout cela va revenir en lui pour dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Là, il a 22 ans. Et c'est en ce moment-là qu'il abandonne tout, à la grande déception de son père, et il demande de rentrer au séminaire.
Alors après sa vie, ça va être difficile de tout raconter, parce que je disais en introduction, sa vie ressemble à une épopée. Peut-être pouvez-vous nous dire, j'ai cru comprendre qu'au moment de son ordination, c'est l'évêque lui-même. Alors est-ce que ça veut dire que ce n'était pas la tradition à l'époque qui a décidé de l'ordonner, parce qu'il voyait en lui quelqu'un avec des capacités exceptionnelles? Ça peut permettre de trouver à illustrer différents épisodes de sa vie, où voilà, tout le monde avait l'air de tomber d'accord sur le fait que cet homme était bien particulier, non?
Effectivement. Le père Clarette a été ordonné prêtre avant de finir les études ecclésiastiques. L'évêque Corcuera, à l'époque, dit qu'il a vu en ce jeune homme quelque chose d'extraordinaire. Et il va donc l'admettre à l'ordination avant de finir les études ecclésiastiques. Et quand le père Clarette est ordonné, il l'envoie comme vicaire dans son village d'origine à Sayenne, vicaire et économe paroissial. Le père Clarette, immédiatement, a été accueilli et bien reçu dans cette mission, et de telle sorte que sa manière d'être, de prêcher et de vivre avec les populations, tout le monde l'affectionnait. Mais le père Clarette, très tôt, avait trouvé que être à Sayenne était tellement petit qu'il voulait aller dans les missions. proclamer l'évangile dans toute la Catalogne. Et il a donc demandé la permission à son évêque de le libérer de la service paroissial pour aller dans les missions. Et l'évêque va le lui accorder. Et pendant presque 5 ans, il sera en train de parcourir toute la Catalogne en train de proclamer la bonne nouvelle. Et une petite époque, lorsque le père Claret faisait ce travail de missionnaire itinérant, comme nous le disons, missionnaire infatigable,
Il allait de paroisse en paroisse,
De village en village. Et lorsque l'évêque de Grand Canary a été informé du travail de ces jeunes prêtres, il va demander à son évêque de le lui prêter pendant quelques mois. Le père Claret va donc aller au Grand Canary. Il va parcourir toute l'île en train de proclamer la parole. Et c'est au Grand Canary qu'on va l'appeler El Padrecito, le petit père. Et aujourd'hui, c'est le patron second des îles Grand Canary, du diocèse de Grand Canary, après notre Vierge des Pins.
Alors, qu'est-ce que vous choisiriez pour la suite? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses. Entre autres, il est nommé, presque malgré lui, évêque, c'est ça?
Oui.
Racontez-nous cet épisode, peut-être.
En fait, le père Claret, ayant parcouru la Catalogne, ayant parcouru les îles Grand Canary, trouvait que son esprit n'était pas pour un petit territoire. Il va demander à son évêque de lui donner la permission d'aller dans la mission universelle. C'est comme cela qu'il va se retrouver à la congrégation de la doctrine de la foi, demandant d'aller...
Il est allé à Rome.
Il est allé à Rome. Et arrivé à Rome...
Il avait de l'ambition, non?
Effectivement.
Comme quoi on peut être saint et avoir de l'ambition, en fait.
Il voulait que Dieu soit connu, aimé et servi par tous. C'est ce qu'il habitait. Étant donc à Rome, il arrive à Rome pendant les vacances d'été. Il n'y avait personne pour pouvoir l'écouter. Il décide maintenant de se présenter aux jésuites pour se faire jésuite. Et là aussi, il y a une petite épopée. Il arrive chez les jésuites, il commence le noviciat. Quelques mois après, il a une douleur au niveau du genou. Et le supérieur général des jésuites qu'il avait accueilli, qu'il avait mis au noviciat, va lui dire « Ce signe est un signe de Dieu. Rentre en Espagne, le Seigneur t'appelle peut-être pour autre chose, pas pour être jésuite. »
Et donc, qu'est-ce qui lui arrive quand il rentre?
Il rentre donc en Espagne et son évêque, très content d'accueillir son missionnaire, le réaffecte. Et c'est étant donc à Vic qu'il va dire « Je dois fonder une congrégation, réunir autour de moi des personnes qui ont le même esprit. » Des personnes qui veulent que Dieu soit connu, servi et aimé par tous.
Donc,
c'est la naissance des missionnaires claretiens, le 16 juillet 1849.
Naissance de la congrégation des fils du cœur immaculé de Marie, missionnaire claretien. Donc, je le disais, en fait, j'avais sauté une étape. Et donc, il est nommé archevêque de Santiago de Cuba. Donc, en fait, d'une certaine manière, son vœu est exaucé. Il part en mission là-bas. Quelques mots là-dessus avant qu'on finisse par le rôle qu'il a eu auprès d'Isabelle II, la catholique.
Alors, les événements de la fondation et de la nomination comme archevêque de Santiago de Cuba se sont passés presque au même moment. Le 16 juillet 1849, c'est la fondation de la congrégation, et en 5 ans, c'est sa nomination comme archevêque de Santiago de Cuba. Alors, avec qui laisser la congrégation, c'était un peu sa grande douleur. Faut-il accepter la nomination ou pas? Après un temps de prière et de conseil, il accepte la nomination et il va à Santiago de Cuba comme archevêque. Et tout de suite,
il fait des merveilles aussi là-bas.
Il va s'imprégner de la réalité de la mission à Santiago de Cuba. Il va trouver des personnes tellement pauvres. Il va trouver l'esclavage, il va trouver l'exploitation. Il va aussi trouver ceux-là qui ne veulent pas des personnes qui sont en train d'éduquer les autres. Mais le père Claret va parcourir son diocèse pendant 3 fois presque sur le cheval, 3 fois de suite. Et il va créer des écoles. Il va créer des coopératives, il va écrire des feuillets, des livres pour éduquer. Et sa première mission, disait-il, il faut d'abord qu'il ait des bons prêtres pour que les prêtres s'occupent mieux du peuple de Dieu. Et il a aussi eu en face de lui des gens qui ne voulaient pas, des personnes qui conscientisent les autres. Et il a été agressé plusieurs fois et il a failli...
Calomnié, persécuté.
Et même, à un moment, on a voulu l'assassiner. Nous parlons de l'attentat de Holguín, où il avait été presque... Voilà, il a été blessé. Et il a été blessé par qui? Par quelqu'un qu'il avait fait sortir de prison quelques mois avant.
Voilà, au bout de quelques années, le changement des mœurs est tellement surprenant dans l'île qu'en toute vérité, Cuba peut être appelée la perle des Antilles. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle qu'il a joué auprès de la reine Isabelle II, pour le coup probablement très connue d'une partie de nos auditeurs. Il est nommé confesseur de sa majesté, il l'accompagne dans son règne, mais Dieu lui parle et lui signifie que les choses vont mal finir.
Effectivement. Lorsque le père Claret est nommé confesseur de la reine, et c'était aussi pour lui une grande tristesse. Quitter le diocèse, quitter le peuple de Dieu pour se retrouver. Il dit, j'étais comme dans une cage auprès de la reine. Mais il finit par accepter par obéissance à l'Église et pour le service qu'il pouvait rendre à la nation en ce moment-là. Et sa mission, c'était d'accompagner la reine sur le plan spirituel, l'éducation de ses enfants et des gens de la cour. Et le père Claret va se manifester dans la cour par une grande austérité, la pauvreté, et ne se mêlait pas de la politique. Mais, étant auprès de la reine, et ce personnage, il sera aussi calomnié, persécuté, mais il ne va pas céder à ce genre de persécution, à la calomnie.
Est-ce qu'on sait le rôle qu'il a joué auprès de la reine Isabelle II ?
Effectivement.
Est-ce qu'on a des exemples, je ne sais pas ou...
Effectivement, d'abord au niveau des mœurs, au niveau de la cour, il a beaucoup participé à la correction des mœurs auprès de la cour, mais aussi elle était le soutien de la reine dans les moments difficiles où il y avait des disputes au niveau de la cour, des intrigues. Et il a toujours été assez équilibré, disant à la reine ce qui n'allait pas et ce qui n'était pas bien pour le pays, pour le royaume.
Voilà un peu. Pour finir, est-ce que vous auriez quelques fioriti dans sa vie qui disent sa sainteté maintenant qu'on a parcouru, qu'on a vu cet homme ordonné, appelé très jeune, ordonné très jeune, qui est archevêque et qui fait des merveilles, qui avant était missionnaire, qui a été jusqu'à être le confesseur de la reine Isabelle II. Est-ce qu'il y a quelques fioriti de sa vie? Qu'est-ce que vous nous citeriez?
D'abord, cette dévotion très profonde à la Vierge Marie. Il disait dans l'une de ses prières, la Vierge Marie est son tout après Jésus-Christ. Et puis aussi, le père Claret a reçu la grâce de conserver les espèces sacramentelles sur lui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est-à-dire, il était lui-même le dit que le 26 août 1861, comme j'étais en prière dans l'église du Rosaire de Granja, à côté de Ségovie, à 7h du soir, notre Seigneur Jésus-Christ m'accorde l'immense bonheur de conserver en moi, sans se communier, sans se consommer la Sainte Hostie. C'est-à-dire, d'une célébration à l'autre, il était devenu comme le tabernacle vivant. Et une petite histoire. Lorsqu'il a participé au Concile Vatican I, dit-il dans son autobiographie, il rencontre un cardinal qui participe aussi au Concile. Le cardinal, sans s'en rendre compte, s'était vénéré devant lui comme si il était devant le Saint-Sacrement, comme s'il était devant le tabernacle.
C'est-à-dire que le cardinal s'est mis à genoux devant lui?
Devant
ou...
lui, donc, oui, effectivement, comme s'il était devant le tabernacle. Et c'est là, il s'est rappelé qu'effectivement, depuis, il a cette grâce, parfois qu'il oubliait qu'il portait d'une célébration à l'autre les espèces sacramentelles.
Voilà, ça c'était la découverte de Saint-Antoine Marie Claret, voilà donc saint fondateur de votre communauté, saint qui a été donc canonisé, je le disais en introduction, par le pape XII en 1950. On va faire une courte pause et on va vous retrouver pour parler un petit peu plus des missionnaires, des fils du cœur immaculé de Marie que vous êtes, de votre présence en France ici à Toulouse et de voir un petit peu ce qui fait la particularité de votre communauté, de votre congrégation et les fruits que vous portez.
Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Émission Vivante Église ce matin à la découverte des Claretins avec autour du plateau, pour rappel si vous nous rejoignez en cours de route, le père Pierre Zanga qui est supérieur provincial des missionnaires Claretins en France, enseignant en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, le père Gustavo Pes qui est curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Toulouse et missionnaire Claretin, le père Joachim Grendotti, vicaire de cette même paroisse et lui-même missionnaire Claretin, et Joël Sceau qui est laïc claretaine. C'est quand même fou, il suffit de se pencher aujourd'hui pour trouver des missionnaires en France. Vraiment, ça devient une habitude dans l'Église de France. Et bientôt, ça ne nous surprendra plus dans quelques dizaines d'années. J'ai même entendu dire que dans le coin de Saint-Gaudens, aujourd'hui, il n'y avait plus que des prêtres ou des missionnaires qui étaient d'origine étrangère. Donc les temps changent. Les Fils du Cœur Immaculé de Marie, donc c'est cette congrégation fondée par votre saint fondateur qu'on a découvert un petit peu en début d'émission, saint Antoine-Marie Claret. Je ne sais pas aujourd'hui, dites-nous au début, ils étaient combien? J'ai cru qu'ils étaient une demi-douzaine en fait, un peu comme les jésuites. Et aujourd'hui, combien sont-ils?
Bon, je vais rebondir sur cette...
Père Joachim Grendotti.
Voilà, sur cette question-là. Déjà à partir du 16 juillet 1849, à la fondation même, donc Claret avait invité autour de lui quelques amis prêtres avec qui il pouvait commencer cette œuvre. Donc ils étaient 6, donc Claret et 5 autres prêtres. Et c'est à partir de là où il disait aujourd'hui commence une grande œuvre. Comme pour dire que l'Esprit Saint est avec eux. Et l'œuvre sera vraiment une grande œuvre. Et c'était à la fête de Notre-Dame du Mont de Carmel. Voilà pourquoi, quelque part...
Il ne doute de rien, c'est ça, hein, c'est incroyable.
Il fait confiance en Dieu, il sait que c'est quelque chose qui vient de l'Esprit Saint et qu'il peut porter cette charge avec les autres. Et c'est comme ça, finalement, le 16 juillet 1849, ils ont commencé au séminaire de Vic avec ses amis.
Donc ils étaient 6. Voilà. Aujourd'hui, les missionnaires claretins, donc je disais dans le teasing de l'émission ce matin, sont présents sur 4 continents, l'Europe, l'Asie, oui. L'Afrique, l'Amérique, oui. 63 pays. Combien êtes-vous de missionnaires dans le monde, missionnaires claretins?
Bon, voilà, nous pouvons nous situer à plus de 3000, c'est-à-dire que 3000 et quelques, entre 3000 et 3100 à peu près. Donc... comme il y a aussi des entrées et des sorties, il y a des gens qui après, bon, peut-être...
Plus de 2000 prêtres, c'est ça?
Non, plus de 3000.
Plus de 3000 prêtres?
3000
missionnaires?
Prêtres et frères.
D'accord.
Donc, c'est une congrégation qui est en son sein, les prêtres, il y a aussi des frères. Donc, nous évoluons ensemble.
Alors comment...
Mais ce qui est plus important, c'est d'abord l'expérience de la vie religieuse.
Comment de Vic, cette congrégation s'est-elle répandue aux quatre coins sur les quatre continents? C'est le cas de pas mal de congrégations missionnaires nées en Europe au XIXe siècle, mais c'est toujours intéressant de raconter cette épopée. Est-ce que ça s'est fait de son vivant ou est-ce que ça s'est propagé après?
Bon, lui-même, il avait voulu que, comme il le disait, son esprit n'est pas seulement pour le petit territoire où il était. Et un mois et demi plus tard, quand il était déjà nommé archevêque, quand il partait pour...
Cuba.
Voilà, le Cuba. Il avait laissé derrière lui ses amis, donc il y avait le père Chiffré, qui avait pris les choses en main, qui était devenu comme le général, et qui avait commencé à travailler dans le sens... de porter la congrégation ailleurs. Et c'est lui qui va beaucoup travailler. Par exemple, la première mission à l'extérieur qui était en Guinée équatoriale, c'est lui qui l'avait portée, puisque ce sont les Claretins qui ont fondé, qui sont les pionniers de la mission en Guinée équatoriale. Bon, c'est vrai, c'est le seul pays qui parle espagnol de ce côté. Et puis après, il y a d'autres événements qui vont concourir aussi à cette expansion aussi de la mission. La guerre de 36 en Espagne. Cette guerre va faire que beaucoup de nos confrères vont quitter l'Espagne pour venir ici en France. Et en venant en France ici, ça les avait aussi servi comme base et ça leur avait donné l'idée de se projeter. De se dire, mais si nous sommes ici en France, pourquoi ne pas faire quelque chose pour envoyer certains missionnaires quelque part? Donc la France a servi aussi beaucoup pour nous comme une base, même si nous n'avons pas une présence, pas de missionnaires français directement de France, mais nous avons quand même des francophones qui qui continuent à travailler. Donc, dans ce sens, oui. Voilà.
Alors, j'ai cru comprendre que chaque famille dans l'Église a un peu ses couleurs, même si il s'agit toujours, en fait, de suivre le Christ et de le faire connaître et aimer. Vous, parmi vos charismes, comme on dit, il y a celui de l'unité. Vous tenez à en parler. Quelle forme ça prend dans votre communauté? Pourquoi est-ce si important de le souligner? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Père Pierre Zanga?
Il faut reconnaître que quand nous parlons de
parlez bien près du micro.
Quand nous parlons de l'unité dans notre famille claritaine, dans la vie religieuse claritaine, nous parlons d'abord de la vie communautaire, qui est presque propre à toutes les communautés, mais la manière de la vivre n'est pas la même.
Alors, c'est-à-dire, quelle forme ça prend chez vous de singulier?
Des singuliers, c'est d'abord, en premier lieu, nous ne nous choisissons pas. Nous nous recevons comme des dons de Dieu. Et si je l'illustre, par exemple, en France, la province de France, il n'y a aucun Français d'origine. Nous sommes tous étrangers. Donc, c'est un défi d'interculturalité très, très fort. Et nous avons aussi la vie de prière qui est une vie exigeante. Les moments de prière, c'est des moments de partage. Nous avons la vie du partage du repas communautaire.
Tous les jours, donc?
Toujours. Le claritain ne mange pas seul, sauf cas exceptionnel. Ça peut aussi arriver.
Le claritain ne mange pas seul, ne vit pas tout seul.
Il ne vit pas tout seul. Jamais. Nous vivons toujours en communauté. Et une communauté forme moins de 3 personnes. Ça, c'est ce que disent notre.
N'est pas toujours le chiffre le plus facile.
Le chiffre le plus
communauté.
Facile. Voilà, pour former une communauté. Et l'autre événement, c'est l'autre accent, c'est que dans la famille claritaine, dans la congrégation des missionnaires claritains, le sujet de la mission, c'est la communauté et non l'individu.
Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Cela veut dire que quand on est en mission, on est envoyé par la communauté et le premier responsable de la mission, c'est le supérieur de la communauté. Ce qui fait que nous travaillons en toute intelligence entre ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau du diocèse et ceux qui sont en communauté pour le service. Je vais illustrer. Nous avons des prêtres et nous avons des frères. Des frères n'ont pas directement des responsabilités au niveau de ecclésial, mais ils sont membres des communautés. Et c'est le frère qui, très souvent, coordonne toute l'administration de la communauté pour donner la possibilité aux frères de pouvoir travailler. Ce qui fait qu'au niveau extérieur, on ne voit pas le frère, mais au niveau intérieur, nous savons que sans le frère, nous ne pourrions pas rendre le service que nous demande l'Église à un moment donné et dans une situation donnée.
Voilà, il y avait un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple de l'unité, vous disiez que dans vos communautés, donc, vous ne viviez jamais seul, toujours donc, évidemment à plusieurs, c'est la conséquence logique, mais vous essayez aussi d'avoir une certaine simplicité de vie, vous dites que vous n'avez pas d'employés par contre, par exemple.
Effectivement, dans la province de France, nous n'avons pas d'employés dans nos maisons, nous-mêmes nous faisons le ménage, nous nous occupons de tout.
Deuxième importance, la parole. Alors vous me diriez, évidemment, il n'y a pas d'église sans parole de Dieu, donc peut-être enfonce-t-on une porte ouverte. Vous vous définissez comme serviteur de la parole. Pourquoi est-ce que vous insistez sur cette particularité? Qu'est-ce qu'avait en tête votre saint fondateur? Et quelle forme ça prend, en fait, dans vos communautés? Alors, on va vous donner la parole, Père Gustavo Pes.
Voilà, nous nous définissons comme auditeurs et serviteurs de la parole. Il y a quelque chose, quand le père Pierre il a raconté là, qu'il est rentré, le père Claret, au noviciat des jésuites, on l'a arraché la Bible. Et on a dit, la Bible, maintenant, c'est pas... Et ça l'a touché vraiment.
Pourquoi? Parce que c'était une époque où on
ne
pouvait pas avoir accès aux écritures comme ça.
Oui, c'était pas très commun comme aujourd'hui. Et vous voyez, même pour nous, dans le monde entier, la diffusion de la parole, c'est très importante. Hein? Nous avons fait même la traduction de la Bible en chinois et dans plusieurs pays dans le monde, nous avons des centres de diffusion de la parole. Mais pas seulement ça, pour nous la parole c'est central dans notre vie. Donc nous essayons, par les orientations des derniers chapitres généraux, nous sommes invités à faire la lectio divine chaque jour, méditer la parole. Mais aussi, nous essayons, avec nos moyens, de présenter dans nos communautés, dans nos paroisses, par exemple.
Alors, prenez l'exemple, la paroisse du Sacré-Cœur. Oui. Quelle forme ça prend?
Et, par exemple, nous avons, dans les temps forts, on avait commencé pendant l'Avent et aussi pendant les carèmes, à réfléchir les textes. Et maintenant, aussi, la proposition, suivant les orientations diocésaines, c'est de former des petites communautés autour de la parole.
Donc vous avez des groupes bibliques en l'occurrence sur la paroisse,
et
c'est ça ?
On a des groupes qui commencent et on a aussi des groupes que on a, c'est pas notre travail, on a hérédité, ils ont plus de 30 ans dans la paroisse.
L'autre particularité, c'est l'attention aux périphéries. Alors, est-ce que vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, avec les missions que vous avez en France, où est-ce que ces missions sont situées, Père Pierre Zanga, et en quoi sont-elles des missions des périphéries ? Alors, je rappelle, les périphéries, hein, c'est l'expression chère au pape François, mais qui probablement n'était pas de lui, pour dire qu'on essaye de rejoindre ceux qui sont a priori soit marginalisés, soit très loin des réalités de vie de l'Église.
Quand les missionnaires claritains prennent des missions en France, c'est d'abord pour accompagner les migrants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de couverture, ceux qui ne sont pas d'un pays, pour les accompagner. Donc c'est déjà des personnes vulnérables.
C'est-à-dire que quand vous choisissez une mission, en général, vous la choisissez en fonction de ça?
Lorsque nous sommes arrivés en France, notre première mission, c'était celle-là, accompagner les migrants. Et nous avons toujours été auprès des migrants, parce que Jésus a été aussi comme un migrant en Égypte. Bon. Et comme périphérie aussi, nous avons la mission de Saint-Lazare à Marseille, dans un quartier difficile que l'archevêque nous a confié il n'y a pas longtemps. Nous avons la mission pour accueillir tous les migrants, qu'ils soient de langue espagnole, de langue française, de langue portugaise, à Marseille aussi. Et à Toulouse, nous avons une mission qui n'est pas exactement une mission de périphérie, mais une mission très interculturelle, avec les gens venant des horizons différents. Et si vous allez à la paroisse lors des célébrations, vous trouverez des Africains, des Européens, des Américains, des Sud-Américains, des Asiatiques. Et c'est ça qui fait notre richesse et notre particularité. Être auprès de ces personnes-là et former une même famille, un même peuple de Dieu et rendre ce service.
Dernier point sur lequel vous insistez, donc, c'est la lutte contre l'injustice. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples de votre communauté aux quatre coins de la planète qui disent cette importance de la lutte contre l'injustice? Citons par exemple, vous me citiez pendant la pause, la Colombie et le travail que les Claretins ont fait au travail de réconciliation nationale et de paix que l'on connaît en Colombie.
Effectivement, nous avons comme congrégation beaucoup œuvré pour la réconciliation du peuple colombien. Mais vous savez, quand les missionnaires travaillent, nous travaillons sans faire de bruit. Nous travaillons dans l'anonymat. Mais nous étions sur le terrain, dans toute cette zone où il y avait de la guerre.
Vous voulez dire que vous avez discuté avec les FARC aussi ?
Les FARC aussi. Nous avons réconcilié le peuple parce qu'en fait, le travail de réconciliation est un travail très difficile. Quand des personnes ont reçu ou bien ont vécu des atrocités, le pardon est très difficile. Mais nous avons travaillé, comme on peut dire, dans l'anonymat. Et aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons, sans bruit, sans tapage. Et aussi, nous avons une représentation au niveau de l'ONU.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, nous sommes une congrégation représentée au niveau de l'ONU. Et pour tout ce qui est des questions de la justice et de la paix, nous avons notre mot à dire. Mais c'est toujours en coulisses. Donc nous avons une représentation officielle au niveau de l'ONU.
Père Gustavo Pes, sur ce point, vous vouliez prendre un autre exemple d'un claretin, je crois, connu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, c'est l'évêque de San Félix d'Araguaï, au Brésil. Il est très connu par son engagement avec les pauvres, surtout avec les Indiens, persécutés. Il a risqué même sa vie. Et c'est un évêque vraiment qui a donné sa vie. Maintenant, il est à la retraite, mais il continue à vivre là-bas.
C'est le père Pedro Casadaliga. Et il y a peut-être 3 semaines, il y a eu un film sur lui dans France Zéro. Et 2 épisodes, ça nous avait surpris. Au même moment, c'était une joie de voir qu'il y a un film international aujourd'hui sur notre confrère Pedro Casadaliga, qui a été un grand personnage pour la défense.
Et qui est décédé, alors, en fait.
Il vit. Il a 90 ans. Nous venons de célébrer ses 90 ans. Là.
D'accord, qui est juste un peu âgé. Voilà, donc ça, c'est pour la découverte des fils du cœur immaculé de Marie. Donc, l'importance de l'unité, de la parole, l'attention aux périphéries ou la lutte contre les injustices. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver, peut-être pour avoir le témoignage de Joël Sceau, voir un peu ce qu'est le mouvement aussi des laïcs claretins, parce que peut-être que certains seraient intéressés. Et on finira par parler un petit peu du scapulaire.
« À Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte des Claretins, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église ce matin, qu'avec autour du plateau des missionnaires Claretins, le père Pierre Zanga, qui est supérieur provincial de cette congrégation missionnaire en France, pour la France, hein, vous êtes provincial, oui. Le père Joachim Grendotti et le père Gustavo Pess, ainsi que Joël Sau, qui elle n'est pas prêtre missionnaire, mais qui est une laïque claretaine. Alors justement, on va parler un petit peu de votre expérience, Joël Sau. Avant d'expliquer ce que sont les laïcs claretins, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous frappe dans la vie du saint fondateur? Pourquoi est-ce qu'il vous a parlé au cœur?
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est l'impressionnant travail apostolique, culturel et social à travers son œuvre. Ce qu'il a fait, il a été canonisé, mais avant tout, c'est un grand prédicateur, un évangélisateur, un catéchiste qui a mis l'accent en fait sur l'éducation des jeunes enfants, l'éducation des jeunes filles, l'éducation des jeunes garçons. Et ça, en fait, dans l'éducation chrétienne, c'était quelque chose vraiment dont il voulait faire la promotion. L'éducation aussi des grandes personnes, parce que il disait qu'il fallait tirer de les grandes personnes de leur ignorance. Et ça aussi, c'est
l'ignorance religieuse, donc.
L'ignorance religieuse, mais aussi l'ignorance intellectuelle aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors,
ça vous a frappé et du coup, ça vous a inspiré. Alors, racontez-nous quel a été votre engagement peut-être dans la paroisse depuis une dizaine d'années.
Alors, ce que les prêtres claretiens savent bien faire, c'est appeler les gens. Donc moi, j'ai été appelée tout de suite dès que je suis arrivée. On m'a laissé aussi la possibilité d'avoir des initiatives. Donc j'ai enseigné le catéchisme pendant une dizaine d'années à une classe. J'ai suivi les mêmes enfants pendant 10 ans, du primaire à la terminale. Et donc, et on est toujours resté en contact. Je me sens toujours liée avec ces enfants. Et aussi, dans les initiatives qu'on a pu prendre, c'est qu'on nous a laissé organiser une chorale qui existe toujours. Dans la paroisse La Padoie, il y a une chorale paroissiale. Mais aussi, ça donnait le goût d'avoir d'autres mouvements. Il y a plusieurs chorales dans cette paroisse. C'est une des paroisses, en fait, du diocèse de Toulouse, où vraiment on peut trouver toutes les paroisses venues de tous horizons.
Pour finir, vous vouliez nous parler, alors on ne va pas parler du scapulaire, mais peut-être de devenir fils du cœur immaculé de Marie. Alors ça peut paraître un mot bien compliqué pour certains, peut-être moins pour d'autres, entre autres tous les familiers de la dévotion mariale à Lourdes. Voilà, vous, l'accent particulier, c'est donc que vous avez probablement une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous expliquer, Père Pierre Zanga, quelle forme ça prend dans votre communauté ?
Il faut reconnaître qu'au cœur de notre spiritualité, il y a le Christ. Nous sommes une spiritualité christocentrique.
C'est rassurant, ça va. A priori, sinon vous ne seriez pas à ce micro-là.
Par Marie à Jésus-Christ. Voilà. Donc nous parlons d'une spiritualité cordi mariale. Cœur de Marie, cœur du Christ, cœur de Marie. Mais nous avons la Vierge Marie comme formatrice. C'est-à-dire, nous imitons la Vierge Marie dans la vie, dans le oui qu'elle a donné, un oui exigeant, mais un oui aussi qui a des moments de grandes difficultés. Mais un oui que l'on vit dans le silence de la vie. Aimer dans le silence, travailler dans le silence et travailler presque dans l'anonymat. De telle sorte que quand nous parlons de la Vierge Marie comme notre formatrice, nous l'imitons dans ses vertus, mais aussi dans sa proximité avec le Christ. Partout où le Christ était, elle était là.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre communauté, donc vous êtes particulièrement attaché à la récitation du rosaire.
Effectivement.
Vous le récitez quoi, seul, en communauté?
Effectivement, nous avons par culture spirituelle le récit du rosaire. Nous disons et nous encourageons tous les claretins à réciter le rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères. Personnellement et en communauté, nous avons au moins une fois par semaine le chapelet ensemble. Ça c'est dans notre vie. Et ce qui aussi peut-être, ça ne dit rien à l'homme moderne d'aujourd'hui, c'est que chaque missionnaire claretien a toujours son chapelet avec lui. C'est comme notre arme. Nous avons toujours notre chapelet. Et pendant le voyage, le père Claret disait, ce qui rend le voyage le moins difficile, c'est quand on commence à prier le rosaire. Ce qui fait que quand nous voyageons, nous avons toujours cette intuition naturelle de prier le chapelet et de vivre cela. Mais en plus du chapelet, il y a quand même aussi, regardant la Vierge Marie, toute la dimension de la donation.
C'est-à-dire
être claretien, nous sommes là pour donner notre vie. Et nous disons toujours, quand un jeune s'approche de la congrégation, nous sommes venus pour donner la vie pour le Christ, où nous serons aigris. Et donner la vie, c'est tout simplement dire à Jésus, me voici, tu m'as appelé, je voudrais être ton missionnaire, je voudrais le vivre pleinement, aide-moi.
Père Joachim Grandetti, vous voulez nous lire un passage de votre saint fondateur à propos de ses fils du cœur immaculé de Marie. Est-ce que vous pouvez nous le lire et puis surtout après le commenter?
Oui, justement, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble.
Alors, la définition.
La définition du
Allez-y.
Fils du cœur immaculé de Marie.
Alors, vous ne le lisez pas ensemble, hein, allez-y, chacun.
Ouais, ouais. Un fils du cœur immaculé de Marie est un homme enflammé de charité et qui brûle partout où il passe, qui désire efficacement que tous les hommes s'embrasent du feu de l'amour divin et qui travaille de toutes ses forces. Rien ne l'en décourage. Il se réjouit des privations. Il aborde ardemment les labeurs. Il accueille volontiers les difficultés. Il rit des calomnies. Il est joyeux dans les tourments. il ne songe à rien d'autre qu'à la manière de suivre Jésus-Christ et de l'imiter par la prière, le travail, la patience, et en ayant pour perpétuel et unique souci la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Alors, on pourrait dire ça de tout apôtre. Donc, quelle teinte ou quelle forme particulière ça peut prendre quand on a une grande dévotion à la Vierge, et en quoi la Vierge Marie peut aider à rentrer là-dedans?
Et oui, comme venait de dire Père Pierre, notre spiritualité est cordée Marielle. Donc, déjà partie même de la naissance de la congrégation, Claret disait, c'est de ce cœur immaculé que nous sommes nés. C'est-à-dire que désormais, comme il a dit, Marie est notre formatrice. Nous nous laissons former par elle pour être plus près de Jésus. Et aussi autre chose, nous devons être aussi pris dans ce feu d'amour. Cet amour qu'avait aussi le Christ et aussi sa mère. Donc pour Claret, les deux cœurs doivent aussi fonctionner presque ensemble. Donc c'est ça. Et autre chose, il nous invite beaucoup plus dans le travail, la prière. Mais il y a la deuxième partie de cette définition qui nous invite à un esprit de sacrifice, d'abnégation, d'accepter les moments difficiles dans notre mission, de ne pas fuir parce que ça fait partie un peu de la croix. Donc nous devons les accepter avec amour, puisque lui-même il en a fait l'expérience des difficultés et autres. Donc il nous invite à le faire, et que la seule chose qui doit nous intéresser, qui doit être devant, c'est beaucoup plus la recherche de la gloire de Dieu et le salut des hommes.
Voilà pour les missionnaires claretins, qui fêtent cette année leur 25 ans, contrairement à ce que je disais ce matin dans le teasing, de présence à Toulouse. Merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir ces missionnaires du Fils du Cœur Immaculé de Marie, et de nous avoir fait un petit peu voyager. Merci beaucoup à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.